L'Assemblée escuchará.
L'Assemblée va maintenant entendre un discours de son Excellence Monsieur Evo Morales Ayma, président de l'État plurinational de Bolivie. Je demande au service du protocole de bien vouloir accompagner le président. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence M. Evo Morales Ayma, président de l'État plurinational de Bolivie. Et je l'invite à s'adresser à cette Assemblée générale.
Muchas gracias.
Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies. Je salue également le secrétaire général des Nations unies, ainsi que tous les présidents et présidentes, les délégations et les organisations internationales du monde entier. Je salue tout particulièrement le président pour de cette réunion annuelle. Nous sommes de nouveau ici, comme toujours, pour partager nos expériences d'administration, de gestion, de travail, de notre vie, de l'humanité, pour l'égalité, pour la justice sociale. Mais nous sommes également ici pour exprimer nos différences profondes en ce qui concerne la vie, la paix, la démocratie, que j'ai écouté pendant ces derniers jours. Ce que j'ai entendu de certaines puissances qui laissent beaucoup à désirer lorsque l'on parle de liberté, d'égalité et de souveraineté. Mesdames et messieurs les présidents et présidentes présents ici, toutes les délégations, grâce à la conscience du peuple bolivien, cela fait près de 8 ans que je suis président. Et au cours de ces près de 8 ans de présidence, et malgré les crises économiques, financières, de certains pays que l'on appelle développés, industrialisés, et que je dirais même exagérément industrialisés, et je dis puissance parce qu'ils industrialisent pour mettre fin à la vie en Bolivie, la croissance économique de 4,8% de moyenne, alors qu'avant nous n'avions que 2% de croissance économique avec les anciennes politiques du libre-marché, du néolibéralisme. Cette année, nous estimons que nous allons avoir au moins 6% de croissance. Donc, nous allons bien. Et grâce à cette croissance économique, j'aimerais dire aux Nations unies que, en ce qui concerne les objectifs du millénaire pour le développement, nous avons réduit la pauvreté, nous avons réussi à éliminer la pauvreté extrême et d'après les données des Nations Unies pour 2011, montrent que 1 million de Boliviens et de Boliviennes sont passés à la classe moyenne. La Bolivie a 10 millions d'habitants. Et 1 million d'habitants qui a échappé à la pauvreté et qui est passé à la classe moyenne, cela représente 10% de la population qui a amélioré sa situation économique. Nous avons également réduit la malnutrition chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Et au-delà, d'ailleurs, nous avons dépassé l'objectif du millénaire pour le développement des Nations Unies. Nous avons atteint un taux d'alphabétisation pour la population âgée de 15 à 24 ans. Et y compris l'UNESCO déclare que la Bolivie n'a plus d'analphabétisme grâce à la coopération de Cuba et de la Bolivie qui travaillent ensemble depuis 2006 et 2007. Nous avons également réalisé l'objectif d'une couverture de santé maternelle. Nous avons réduit la mortalité maternelle et infantile. Et j'aimerais vous dire que grâce à cette croissance économique, nous avons créé un système de subventions pour les femmes enceintes, pour les enfants âgés jusqu'à l'âge de 2 ans. Et ceci a permis de réduire très rapidement la mortalité maternelle et infantile. Nous avons accru également la couverture grâce à un programme que nous appelons « Programme pour l'eau ». Grâce à ce crédit particulier pour l'accès à l'eau, nous sommes maintenant à la troisième phase avec 300 dollars par municipalité dans les zones rurales. Et ceci nous a permis, dans certaines municipalités, de les doter à 100% de la population dans ces municipalités en eau potable. Bien sûr, il s'agit d'une question très importante. Et dans la région de Santa Cruz, j'ai visité 2 municipalités. Et des maires m'ont dit, même si ce sont des maires d'autres partis et non pas du mien, ils m'ont dit que grâce à ce troisième programme pour l'eau, 100% de la population aura accès à l'eau potable. Et donc la situation s'est beaucoup améliorée en termes d'accès à l'eau potable. Et j'aimerais vous dire que l'investissement pour l'eau, c'est une bénédiction pour la vie. L'investissement pour l'eau permet de réduire les maladies. C'est l'eau potable qui permet d'éviter de nouvelles maladies au sein de la population. Frères et sœurs présents ici, j'aimerais que vous sachiez que tout ceci nous l'avons accompli grâce à un État digne et souverain. Et pourquoi est-ce que j'utilise ces mots « digne et souverain » ? Auparavant, politiquement, nous étions soumis à l'Empire nord-américain. Les ambassadeurs de l'Amérique du Nord décidaient qui allait être nos ministres. Et économiquement, nous étions soumis au Fonds monétaire international. Et dès que nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons dit que nous allions mettre fin à cette soumission à des organismes internationaux, mais également cette soumission à l'ambassade des États-Unis. Auparavant, pour tout crédit, le Fonds monétaire international imposait des conditions. Cela représentait un chantage pour le gouvernement. Et ces chantages, ces conditions, avaient pour but de remettre nos ressources naturelles à des personnes étrangères, que nous privatisions les services fondamentaux. Président, présidente, ici présent, il faut savoir que les services fondamentaux, les services de base, c'est un droit de l'homme. Cela ne peut pas être un service privé. Et donc, lorsque nous nous sommes libérés politiquement et économiquement, cela a permis d'améliorer la situation. Et j'aimerais dire que l'une des politiques que nous avons mises en place, c'est justement de la nationalisation des hydrocarbures, le gaz et le pétrole. Et j'aimerais que vous sachiez, pour vous raconter une petite expérience, avant, les contrats avec l'industrie du pétrole mentionnaient que le titulaire avait le droit de se déclarer propriétaire, alors que nous, les dirigeants syndicaux, avons dit pourquoi est-ce que le pétrole et le gaz n'appartiennent pas au peuple bolivien. Et nous avons dit que tout ce que trouve sous terre appartient aux Boliviens. Mais il semblait que tout ce qui était au-dessus de la terre n'appartenait plus aux Boliviens. Et donc le titulaire de ces grandes compagnies acquérait le droit à ces ressources. Et j'aimerais vous dire que 80% des revenus allaient aux multinationales. Il ne restait que 17% à l'époque pour les Boliviens. Il s'agissait d'un vol, d'un pillage avant la nationalisation des hydrocarbures. Et j'aimerais donc vous dire que nous avons commencé à améliorer la situation économique et sociale. Un exemple, frères et sœurs, La rente pétrolière en 2005, avant que je ne sois devenu président, était 100 000 $. Maintenant, grâce à la nationalisation et grâce aux luttes sociales, la rente pétrolière va être de plus de 5 milliards $. Nous avons presque atteint 5 milliards. Et si nous poursuivons avec les investissements, nous allons peut-être même pouvoir augmenter ce chiffre. Nous sommes en train d'investir. Je voulais partager cette expérience avec vous. Vous savez très bien que je ne suis pas expert pour les questions financières ou les questions politiques, mais à la demande du peuple bolivien, je continue à prendre jour après jour les besoins, les problèmes, les revendications de mon peuple, le peuple de la Bolivie. Et donc, chers frères, j'aimerais dire que ce travail conjoint avec les représentants sociaux, qui sont les représentants du peuple, nous permet de bien avancer. Et je peux dire aux Nations Unies et au secrétaire général des Nations Unies que nous sommes en train de travailler sur un ordre du jour patriotique pour 2025. En quoi consiste cet ordre du jour, ce programme patriotique pour 2025, c'est-à-dire pour le bicentenaire? La Bolivie a été fondée en 1825. En 2025, ça sera donc 200 ans depuis que notre pays se soit transformé en république, maintenant pays plurinational. Et nous avons connu de nombreux types de systèmes sociaux. Nous avons essayé de mobiliser tous les maires, tous les agents pour mettre au point un programme qui permette de mobiliser les générations futures également, frères et sœurs. Et j'aimerais vous dire, j'aimerais vous parler que, mis à part les questions locales, il y a également les questions nationales, le problème de la Bolivie et du Chili, notamment notre accès à l'océan Pacifique. En 1879, le 4 février, il n'y a pas eu une guerre, il y a eu une invasion, une invasion qui a commencé le 14 février 1879. Et le 23 mars, il y a eu une petite résistance contre ceux qui nous ont envahis. Il s'agissait d'entreprises anglaises à l'époque. Nous avons perdu notre accès à la mer et à partir de ce moment, il y a eu énormément de réunions. Un traité a été mis au point, mais c'est un traité qui a été imposé de façon injuste et qui, de plus, n'a pas été respecté, n'a pas été appliqué. Et j'aimerais donc mentionner la chose suivante, mesdames et messieurs, frères et sœurs présents ici. Après tant de réunions avec d'anciens présidents, même avec l'ex-président du Chili, nous avons essayé de voir sur quoi nous pouvions nous entendre, mais il n'y a jamais eu de proposition officielle quant à ce droit. Et les Boliviens ne vont jamais renoncer à ce droit à avoir accès à l'océan Pacifique, en toute souveraineté. Le président du Chili a dit, en septembre 2010, devant l'Assemblée générale des Nations unies, ici à New York, il a dit donc que les traités sont inviolables, on ne peut pas y toucher. Le 28 janvier 2013, pendant le sommet de la communauté économique d'Amérique latine et des Caraïbes, la CELAC, à Santiago de Piedra, nous avons dit la chose suivante. Bien sûr que les traités peuvent être perfectionnés. On nous dit d'un côté qu'ils sont inviolables, mais d'autre part, on nous dit qu'ils peuvent être perfectionnés. Et ceci montre bien qu'il reste un problème à résoudre. Le 17 novembre 2012, une déclaration publique a été faite disant que le Chili allait faire respecter non seulement les traités qui affirment sa souveraineté, mais sa souveraineté grâce à toute la force du monde. Mais néanmoins, le 28 janvier, pendant le sommet de la CELAC à Santiago, le président du Chili a affirmé que la souveraineté ne peut être touchée, à l'exception pour des raisons économiques. Le 22 septembre 2011, à l'Assemblée générale des Nations unies, le président Piñera a dit qu'entre le Chili et la Bolivie, il n'existe pas de litiges territoriaux en suspens. Et pourtant, le 12 février 2013, lors d'une réunion, lors d'un entretien avec un journal, le président du Chili a reconnu la chose suivante. Le Chili a offert à la Bolivie de lui offrir l'autonomie pour une enclave territoriale. Mais pourtant, cette proposition n'a jamais été énoncée officiellement. Quatrième contradiction, le 11 novembre 2012, lors du sommet ibéro-américain à Cadiz, en Espagne, le président du Chili a dit que le Chili allait exiger qu'on lui présente un traité qui est en vigueur, tel que le traité passé, et que toute discussion concernant ce traité doit relever de discussions bilatérales et non pas dans des enceintes multilatérales comme celle à laquelle nous participons ici aujourd'hui. Le 2 février 2013, le président du Chili a dit qu'il existait une possibilité d'avoir un accès à la mer sans souveraineté, mais seulement si le Pérou obtenait sa victoire à La Haye. Autre contradiction. En juin 2013, le président du Chili a dit que le Chili avait le droit, qu'il allait défendre avec toute la force nécessaire son territoire, sa mer, et que le Chili est un pays qui ne va jamais plier dans la légitime défense de son territoire. En juin, le Chili a dit donc qu'il n'acceptera pas, ne céderait pas à la pression de la Bolivie, même si le président Morales continue à nous disqualifier. En septembre 2013, bien entendu, nous allons respecter la décision de La Haye sur la question de la demande du Pérou. Nous sommes un pays qui respecte les sentences de la Cour internationale. Mesdames et messieurs, président, présidente, Nations Unies, la Bolivie est un pays pacifique de par sa constitution après la refonte de l'État plurinational. Et maintenant, je souhaite vous informer, avec tout le respect que je vous dois, que nous saisissons les tribunaux internationaux et notre demande veut que la Cour internationale de justice déclare l'obligation qu'a la République du Chili de négocier de façon effective, opportune et en bonne foi un accès souverain à l'océan Pacifique pour rétablir les droits que la Bolivie avait et qu'elle continue à avoir sur la mer. Bien entendu, j'aimerais que vous sachiez que cette demande ne peut ni ne doit être interprétée comme étant un acte hostile. Bien au contraire, il s'agit d'une preuve de respect et de confiance de la Bolivie quant au mécanisme de règlement pacifique des différends internationaux. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, imaginez les dommages économiques que cela nous a causés. Imaginez les dommages que cette invasion de 1879 a causé aux Boliviens pour les générations passées et les générations futures. Nos anciens continuent à se demander quand nous récupérerons notre accès à la mer, car la Bolivie avait un accès à la mer, à l'océan Pacifique. Et donc, nous continuons d'essayer de trouver une solution pacifique. Frères et sœurs, ces jours, nous avons entendu différentes interventions. Bien sûr, on ne peut pas entendre toutes les interventions. Et j'aimerais vous dire que, alors que certains d'entre nous travaille pour réduire la pauvreté ou même pour mettre fin à la pauvreté, notamment la pauvreté extrême. Le président du gouvernement recherche la paix, la justice sociale, mais certaines puissances, très peu d'entre elles, promeuvent les guerres, les conflits armés, l'ingérence militaire, sans même respecter les organismes internationaux. Nous avons écouté dans ces interventions parler de liberté, de démocratie, de paix, de justice, de sécurité. Et dans cette enceinte, nous, en tant que peuple qui avons été marginalisés, dont nos ressources ont été pillées, en raison des différents empires en place, eh bien, nous nous demandons la chose suivante. De quelle démocratie parle-t-on? De quelle justice et de paix nous parlent certains présidents qui viennent ici? alors que ces derniers bloquent les espaces aériens, qu'ils ne donnent pas de garantie à la présence au sein de cette enceinte à certains présidents, par exemple. Et ils parlent de démocratie, mais comment peuvent-ils parler de démocratie alors que les services secrets des États-Unis violent les droits de l'homme, la vie privée d'autres personnes en se servant d'entreprises privées? Et on constate qu'ils non seulement ils espionnent des gouvernements démocratiques, mais même leurs propres alliés, leurs propres citoyens et même l'ONU. Bon, eh bien, qui nous espionne en tant que gouvernement anti-impérialiste, mais espionner les Nations Unies, espionner leurs propres alliés, eh bien, cela montre une grande arrogance contre l'humanité. Et pour cette raison, nous savons que non seulement il y a des espions, mais qu'il y a également des tentatives de coup d'État. Et comment peut-on parler de ces choses alors que les dépenses militaires de ce pays violent les droits de l'homme de notre peuple? Et j'aimerais dire au peuple des États-Unis, et alors qu'il y a tant de chômage dans ce pays, comment est-il possible que son gouvernement, que son président dépense 700 milliards de dollars pour les dépenses militaires? Et qui dépense peut-être même 70 000 milliards pour l'espionnage, alors qu'il y a tant d'Américains qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de travail. C'est absolument incompréhensible d'utiliser tant d'argent pour intervenir dans d'autres pays en laissant pour compte ses propres citoyens. On nous parle du respect des droits de l'homme, alors que dans les prisons de Guantanamo, la torture existe, et que dans les bases militaires au Moyen-Orient, l'on torture. Et des politiciens ou des dirigeants syndicaux qui ne partagent pas les idées de l'Empire et les politiques du capitalisme. Et j'aimerais vous dire qu'il ne peut pas y avoir de propriétaires, de seigneurs du monde. Ils se trompent. Mais outre tout cela, ils signent certaines des conventions les plus importantes au monde. Ils ne respectent pas les résolutions des Nations Unies. La sécurité de l'Empire et la lutte contre le terrorisme se sont transformées en un instrument, un prétexte pour des interventions militaires unilatérales. Le terrorisme n'est pas combattu avec plus de dépenses militaires ou avec des interventions militaires unilatérales. D'après moi, pour autant que je sache, on lutte contre le terrorisme grâce à des politiques sociales et non pas avec des bases militaires, avec la tolérance religieuse, avec plus de démocratie, avec plus d'égalité, de justice et plus d'éducation. Quel pays n'a pas de difficultés? Bien sûr, il y a des différences. Mais l'important, c'est de donner des moyens. Même avec ceux qui ne partagent pas toujours les mêmes idées politiques. Le capitalisme souhaite sauver sa crise grâce à la guerre et grâce aux interventions armées. Nous devons nous demander la chose suivante. À qui profitent les guerres? Qui se répartissent les ressources naturelles après les interventions? Entre les mains de qui se trouvent ensuite les pays où une intervention a eu lieu après des bombardements? Qui gouverne réellement les États-Unis? C'est également une question que je me pose. S'agit-il d'un gouvernement des citoyens ou un gouvernement des entreprises qui promeuvent la guerre? En tout cas, vu de l'extérieur, bon, comme je dis, je ne suis pas un ambassadeur. Le gouvernement, ici, et ceux qui financent les campagnes politiques et pour les élections, ce sont les banquiers, ce sont des grandes entreprises. Ce sont eux qui décident des politiques. On ne peut se tromper en ce qui concerne le conflit en Syrie. Bien entendu que nous ne sommes pas d'accord avec l'utilisation d'armes chimiques ou de tout type d'armes de destruction massive, mais entre les mains de qui se trouvent les armes nucléaires, les principales armes nucléaires ou le plus grand nombre d'armes nucléaires? Qui a inventé les armes chimiques? Qui utilise ces armes pour mettre fin à la vie? En tout cas, dans ma région, dans mon pays, nous le rendons parfaitement compte entre les mains de qui se trouvent ces dernières et pourquoi. Une démocratie ne fait pas la guerre. Ce que nous voyons, c'est que ceux qui décident de la guerre, ce sont les grandes industries d'armement, le système financier, les entreprises qui tolèrent la plutocratie qui s'est substituée à la démocratie, le gouvernement des riches et des puissants qui définissent le style dans le monde. Nous faisons face non seulement à un nouveau moment de l'impérialisme, une nouvelle phase géopolitique. À l'époque, l'Amérique latine et les Caraïbes se trouvaient répartis entre différentes puissances. Et les intérêts de ces puissances n'étaient pas de résoudre les problèmes de pauvreté, de démocratie, de liberté. La seule chose qui les intéressait était les ressources naturelles de ces pays. Et maintenant, encore une fois, grâce à des interventions militaires, ces puissances souhaitent de nouveau se répartir ces ressources. On parle également de la colonisation de l'espace, et nous l'avons vécu ces derniers temps. Les propriétaires du monde, ceux qui pensent être les seigneurs, les propriétaires du monde, nous disent que leur puissance n'a pas de limite et qu'ils peuvent intervenir partout où ils le souhaitent, à leur guise. Et je me demande donc à quoi servent les Nations Unies, à quoi servent les traités, les conventions, à quoi sert le multilatéralisme. Multilatéralisme humain, bienvenue, mais l'interventionnisme sera combattu par tous les peuples du monde, et j'en suis convaincu en tant que dirigeant syndical et du fait que je viens de certaines des couches les plus pauvres de l'Amérique, de milieux de paysans. La guerre, ce sont les affaires du capitalisme. Il ne peut y avoir de paix sans justice, sans égalité. Alors que la guerre en tant qu'entreprise continue. Il provoque des guerres, il livre la guerre, et ceci pour faire des affaires. Et c'est pour cette raison que je pense qu'ici, il est important de réfléchir profondément à ces questions. Un autre instrument de domination, c'est la lutte contre le trafic de drogue. Mais je peux vous dire qu'avec les efforts du peuple bolivien et du gouvernement national, même si certaines puissances n'assument pas leurs responsabilités partagées dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, car après tout, les marchés principaux des drogues se trouvent dans les pays capitalistes. Et après nous avoir livré des guerres, et ensuite des pays voisins tels que l'Argentine, le Brésil et d'autres qui mènent avec nous la lutte contre le trafic de drogue. Je salue le fait que les Nations Unies ont reconnu les efforts faits dans la lutte contre la drogue en Bolivie. Mais qui devons-nous croire à cet égard? Le gouvernement des États-Unis ou les Nations Unies? Je vous pose la question. J'aimerais vous dire que, en venant aux Nations Unies à New York, je me suis senti un peu en une situation d'insécurité. Le siège des Nations Unies doit être un territoire qui doit se trouver dans un pays qui a ratifié toutes les conventions et tous les traités des Nations Unies. Vous savez très bien que les États-Unis n'ont jamais ratifié certains traités concernant les droits de l'homme, les droits de la terre nourricière. Et qui nous garantit que nous aurons la possibilité de survoler le pays? Je me sens solidaire avec mon compagnon, le président Maduro du Venezuela, à cet égard d'ailleurs. Comment pouvons-nous être certains, lors d'une réunion des Nations Unies, ici à New York, que certains qui ne sont pas d'accord avec l'impérialisme et le capitalisme, que nous allons pouvoir venir ici, que nous serons en sécurité. Mais ce n'est pas par peur que nous allons continuer à être complices d'une attitude aussi arrogante contre les peuples du monde. Je ne comprends pas comment on peut faire fi des résolutions des Nations Unies, notamment par rapport au blocus contre Cuba. Mais malheureusement, ces résolutions ne sont pas appliquées, ne sont pas respectées. Donc à quoi servent les Nations Unies, en fond? J'aimerais vous dire que j'aimerais également que vous sachiez que les États-Unis sont un refuge pour les terroristes et les corrompus. Ils échappent à la justice bolivienne. Ils échappent à la Bolivie et viennent ici se réfugier. Et le gouvernement des États-Unis ne nous aide pas dans la lutte contre la corruption. Donc, quel genre d'accord pouvons-nous conclure pour lutter contre la corruption? De plus, ils accusent certains gouvernements, ils accusent Cuba de promouvoir le terrorisme. Il y a à peine 60 à 70 présidents sur environ 190 qui viennent ici. Ce genre de politique fait peur à de nombreux présidents. Comment allons-nous voter pour des résolutions l'année prochaine si les présidents ne sont pas présents? Peut-être qu'il faudrait changer le lieu du siège des Nations Unies. Peut-être qu'il faudrait penser à la Bolivie, à d'autres pays qui ont ratifié tous les instruments dans le domaine des droits de l'homme. C'est peut-être dans ces pays que devrait se trouver le siège des Nations Unies. Il y a des chantages en termes d'octroi de visa. Et j'aimerais vous dire que pour venir ici, j'ai dû attendre longtemps pour mon visa. Et de plus, le visa ne nous est octroyé que pour 4, 5 ou 6 jours. À quoi sert ce genre de visa? Il faut que je regarde ma montre pour savoir quand va expirer mon visa. Et donc, il y a toujours des chantages en termes d'octroi de visa. Si ici, nous souhaitons réellement débattre de l'avenir de l'humanité, peut-être qu'il faudrait réfléchir sérieusement à constituer un tribunal des peuples avec les organismes chargés des droits de l'homme pour commencer à lancer une demande au gouvernement Obama. Je suis surpris que le président Obama des États-Unis a dit, et ceci a appelé mon attention, dans son premier discours, il a dit que j'ai été élu pour mettre fin aux guerres. Ce sont ses propres mots. Et ça a été entendu à la radio, à la télévision, dans les journaux. Et moi, je dis que de plus, ce président vient d'une famille qui a subi des discriminations. Il dit qu'il souhaite mettre fin aux guerres. C'est ce qu'il a dit récemment. Et maintenant, nous voyons exactement le contraire. Et pourtant, il a reçu le prix Nobel de la paix. Nous le félicitons pour cela. Mais il s'agissait d'un prix Nobel de la paix et non pas d'un prix Nobel de la guerre. Quelles sont les raisons pour un jugement, pour un processus ou pour un crime contre l'humanité? Je pense au bombardement en Libye. Dites-moi. À qui appartenait le pétrole en Libye avant et à qui appartient-il maintenant? Avant, au moins, le peuple de la Libye pouvait profiter de son pétrole. Mais maintenant, comment est géré ce pétrole? Comment est-il utilisé? Que s'est-il passé en Irak? Moi, je demeure convaincu que derrière toute guerre, derrière toute intervention, ce qui se passe, c'est il y a une appropriation des ressources naturelles. Nous, en Bolivie, nous avons récupéré nos ressources naturelles démocratiquement, non pas avec des balles, mais avec des élections, grâce à la conscience du peuple bolivien. Il faudrait juger le financement des groupes terroristes, la fourniture d'armes à des opposants. Et j'aimerais vous dire que après que l'ambassadeur des États-Unis a été expulsé de la Bolivie, je ne me repens pas. Nous nous trouvons dans une bien meilleure situation démocratique, car cet ambassadeur continue à conspirer. Ce que nous voulons, c'est une coopération, sans condition et sans le moindre chantage. Nous n'allons pas privatiser nos ressources naturelles ou nos services essentiels. Imaginez-vous les dommages que causent les blocus économiques contre un pays. C'est un génocide. Si réellement nous sommes responsables de l'humanité, de la vie, si nous sommes responsables de la vérité, de la justice, de la paix, eh bien, nous devons nous organiser. Car aucun président, ni en Amérique latine, ni au Moyen-Orient, ni ailleurs, ne puisse porter atteinte à la vie ou à l'humanité. Président et présidente présents ici aujourd'hui. J'aimerais vous parler de. Nous avons parlé de crise économique, financière, alimentaire. Maintenant, il faudrait peut-être parler de l'interventionnisme. Tant qu'il y aura le capitalisme et l'impérialisme, il n'y aura jamais de paix, de justice, de liberté, et il n'y aura jamais de souveraineté pour le peuple du monde. J'en suis convaincu. Car j'ai un peu d'expérience dans ce domaine. Il faudrait donc un monde sans oligarchie, sans monarchie, sans hiérarchie. Et de plus, nous devons décider quels sont les dirigeants que nous voulons, que nous soyons des peuples petits ou des peuples en retard, où on voit le développement, comme on dit, quelle que soit notre situation, nous devons pouvoir jouir de notre souveraineté. Qu'est-ce qui se passe avec la classe politique? Trop souvent, la classe politique est marquée par la corruption, par l'arrogance, et c'est mon obligation en tant que président de lutter contre cela. Il y a des politiques qui font énormément de dommages, notamment la corruption, l'abus de pouvoir. Et notre obligation est de voir comment nous pouvons changer la politique. Et je peux vous dire, d'après mon expérience, que la politique, ce ne sont pas les affaires ou les bénéfices. La politique, c'est le service pour le peuple, des efforts pour le peuple. Ceux qui pensent que la politique, c'est faire des affaires, eh bien, ils se trompent. Si un gouvernement permet que dans son pays, les banquiers ou les financiers ou les multinationales gouvernent, eh bien, ils se trompent. Le pouvoir doit être entre les mains d'un président élu démocratiquement par le peuple, avec la participation des forces sociales pour le bien-être de la majorité du peuple. Bien sûr, nous devons respecter la propriété privée. Mais c'est tout à fait autre chose lorsque tout reste entre les mains de peu et pas au service du plus grand nombre. Et sur la base de cette expérience, j'aimerais vous demander à tous de lutter pour des politiques contre des politiques économiques qui font beaucoup de mal à travers le monde. Tant qu'il y aura l'Empire, tant qu'il y aura le capitalisme, la lutte se poursuit. Le peuple va se lever. Il n'y aura jamais de justice. Si nous pouvons nous débarrasser de l'empire du capitalisme, il y aura la paix et la justice pour nos peuples. Merci beaucoup.
En nombre de la Asamblea General, agradezco al presidente.
Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République plurinationale du Bolivie. Je prie les délégués, les représentants de rester assis pendant que nous prenons congé du président.
Now,
I have to say now that we go on to the general debate. No? Okay, now. Continuamos ahora con el debate general.
Nous allons poursuivre notre débat général. L'Assemblée va entendre une déclaration de M. Ali Zeidan, Premier ministre de la Libye. Je demande au service du protocole de bien vouloir accompagner son